Chapitre 2. Ma sœur, Mrs. Jo Gargery, n'avait pas moins de 20 ans de plus que moi, et elle s'était fait une certaine réputation d'âme charitable auprès des voisins, en m'élevant, comme elle disait, à la main. Obligée à cette époque de trouver par moi-même la signification de ce mot, et sachant parfaitement qu'elle avait une main dure et lourde, que d'habitude elle laissait facilement retomber sur son mari et sur moi, je supposais que Jo Gargery était, lui aussi, élevé à la main. Ce n'était pas une femme bien avenante que ma sœur, et j'ai toujours conservé l'impression qu'elle avait forcé par la main Jo Gargery à l'épouser. Jo Gargery était un bel homme. Des boucles couleur filasse encadraient sa figure, douce et bonasse, et le bleu de ses yeux était si vague et si indécis qu'on eut de la peine à définir l'endroit où le blanc lui cédait la place, car les deux nuances semblaient se fondre l'une dans l'autre. C'était un beau garçon, doux, obligeant une bonne nature, un caractère facile, une sorte d'Hercule par sa force et aussi par sa faiblesse. Ma sœur, Mrs. Jo, avait des cheveux et des yeux noirs, avait une peau tellement rouge que je me demandais souvent si, peut-être, pour sa toilette, elle ne remplaçait pas le savon par une râpe à muscade. C'était une femme grande et osseuse. Elle ne quittait presque jamais un tablier de toile grossière, attaché par derrière à l'aide de deux cordons, et une bavette imperméable, toujours parsemée d'épingles et d'aiguilles. Ce tablier était la glorification de son mérite et un reproche perpétuellement suspendu sur la tête de Jo. Je n'ai jamais pu deviner pour quelle raison elle le portait, ni pourquoi, si elle voulait absolument le porter, et elle ne l'aurait pas changé au moins une fois par jour. La forge de Jo attenait à la maison, construite en bois, comme l'était à cette époque plus que la plupart des maisons de notre pays. Quand je rentrais du cimetière, la forge était fermée, et Jo était assis tout seul dans la cuisine. Jo et moi, nous étions compagnons de souffrance, et comme tels, nous nous faisions des confidences. Aussi, à peine eus-je soulevé le loquet de la porte, et l'eus-je aperçu dans le coin de la cheminée, qu'il me dit. « Mrs. Jo est sortie 12 fois pour te chercher, mon petit Pipe, et elle est maintenant dehors 13e fois pour compléter la douzaine de boulangers. »
« Vraiment ?»«
Oui, mon petit Pipe, » dit Jo. « Et c'est ce qu'il a de pire pour toi. C'est qu'elle a pris Tickler avec elle. » À cette terrible nouvelle, je me mis à tortiller l'unique bouton de mon gilet, et d'un air abattu, je regardai le feu. Tickler était un jonc flexible, poli à son extrémité par de fréquentes collisions avec mon pauvre corps.
« Elle se levait sans cesse, » dit Jo. « Elle parle à Tickler. » Puis elle s'est précipitée dehors comme une furieuse. Oui, comme une furieuse, ajouta Jo en tisonnant le feu entre les barreaux de la grille avec le poker.
Y a-t-il longtemps qu'elle est sortie, Jo? Dis-je, car je le traitais toujours comme un enfant et le considérais comme mon égal.
Dit Jo en regardant le coucou hollandais. Y a bien 5 minutes qu'elle est partie en fureur, mon petit Pipe.
Elle revient. Cache-toi derrière la porte, mon petit Pipe, et rabats l'essuie-main sur toi. Je suivis ce conseil. Ma sœur, Mrs. Jo, entra en poussant la porte ouverte, et trouvant une certaine résistance, elle en devina aussitôt la cause et chargea Tickler de ses investigations. Elle finit, je lui servais souvent de projectile conjugal par me jeter sur Jo, qui, heureux de cette circonstance, me fit passer sous la cheminée et me protégea tranquillement avec ses longues jambes.
« D'où viens-tu, petit singe ? » dit Mrs. Jo en frappant du pied. « Dis-moi bien vite ce que tu as fait pour me donner ainsi de l'inquiétude et du tracas. Sans cela, je serais bien attaqué dans ce coin, quand vous seriez 50 Pips et 500 Gargaries. »
« Je suis seulement allée au cimetière, » dis-je du fond de ma cachette, en pleurant et en me grattant.
« Au cimetière ?» répéta ma sœur. « Sans moi, il y a longtemps que tu y serais allée, et que tu n'en serais pas revenue. Qui donc t'a élevée ?»«
C'est toi, » dis-je.
« Et pourquoi y es-tu allée ? Voilà ce que je voudrais savoir, » s'écria ma sœur.
« Je ne sais pas, » dis-je à voix basse.
« Je ne sais pas, » reprit ma sœur. « Je ne le ferai plus jamais. Je connais cela. Je t'abandonnerai un de ces jours, moi qui n'ai jamais quitté ce tablier depuis que tu es au monde. C'est déjà bien assez d'être la femme d'un forgeron et d'un Gargery encore, sans être ta mère. »
Mes pensées s'écartèrent du sujet dont il était question, car en regardant le feu d'un air inconsolable, je vis paraître, dans les charbons rongeurs, le fugitif des marais, avec sa jambe ferrée, le mystérieux jeune homme, la lime,
les vivres, et le terrible engagement que j'avais pris de commettre un larcin sous ce toit hospitalier.
« Ah !» dit Mrs. Joe en remettant Tickler à sa place. « Au cimetière, c'est bien cela. C'est bien à vous qu'il appartient de parler de cimetière. Pas un de nous, entre parenthèses, n'avait soufflé un mot de cela. Vous pouvez vous en vanter tous les deux. Vous m'y conduiriez un de ces jours, au cimetière. Ah ! Quel joli couple vous ferez sans moi !»
Pendant qu'elle s'occupait à préparer le thé, Joe tournait sur moi des yeux interrogateurs, comme pour me demander si je prévoyais quelle sorte de couple nous pourrions bien faire à nous deux si le malheur prédit arrivait. Puis il passa sa main gauche sur ses favoris, en suivant de ses gros yeux bleus les mouvements de Mrs. Joe, comme il faisait toujours par les temps d'orage. Ma sœur avait adopté un moyen de nous préparer nos tartines de beurre, qui ne variaient jamais. Elle appuyait d'abord vigoureusement et longuement avec sa main gauche le pain sur la poitrine, où il ne manquait pas de ramasser sur la bavette tantôt une épingle, tantôt une aiguille, qui se retrouvait bientôt dans la bouche de l'un de nous. Elle prenait ensuite un peu, très peu de beurre, à la pointe d'un couteau, et l'étalait sur le pain de la même manière qu'un apothicaire prépare un emplâtre, se servant des deux côtés du couteau avec dextérité, et ayant soin de ramasser ce qui dépassait le bord de la croûte. Puis elle donnait le dernier coup de couteau sur le bord de l'emplâtre, et elle trancha une épaisse tartine de pain, que, finalement, elle séparait en deux moitiés, l'une pour Joe, l'autre pour moi. Ce jour-là, j'avais faim, et malgré cela, je n'osais pas manger ma tartine. Je sentais que j'avais à réserver quelque chose pour ma terrible connaissance et son allié, plus terrible encore, le jeune homme mystérieux. Je savais que Mrs. Joe dirigeait sa maison avec la plus stricte économie, et que mes recherches dans le garde-manger pourraient bien être infructueuses. Je me décidai donc à cacher ma tartine dans l'une des jambes de mon pantalon. L'effort de résolution nécessaire à l'accomplissement de ce projet me paraissait terrible. Il produisait sur mon imagination le même effet que si j'eusse dû me précipiter d'une haute maison ou dans une eau très profonde, et il me devenait d'autant plus difficile de m'y résoudre finalement que Joe ignorait tout. Dans l'espace de franc-maçonnerie, déjà mentionné par moi, qui nous unissait comme compagnons de même souffrance, et dans la camaraderie bienveillante de Joe pour moi, nous avions coutume de comparer nos tartines, à mesure que nous y fusions des brèches, en les exposant notre mutuelle admiration, comme pour stimuler notre ardeur. Ce soir-là, Joe m'invita plusieurs fois à notre lutte amicale, en me montrant les progrès que faisait la brèche ouverte dans sa tartine. Mais, chaque fois, il me trouva avec ma tasse de thé sur un genou, et ma tartine intacte sur l'autre. Enfin, je considérais que le sacrifice était inévitable. Je devais le faire de la manière la moins extraordinaire et la plus compatible avec les circonstances. Profitant donc d'un moment où Joe avait les yeux tournés, je fourrai ma tartine dans une des jambes de mon pantalon. Joe paraissait évidemment mal à l'aise de ce qu'il supposait être un manque d'appétit, et il mordait tout pensif à même sa tartine des bouchées qu'il semblait avaler sans aucun plaisir. Il les tournait et retournait dans sa bouche plus longtemps que de coutume, et finissait par les avaler comme des pilules. Il allait saisir encore une fois avec ses dents le pain beurré et avait déjà ouvert une bouche d'une dimension fort raisonnable, lorsque, ses yeux tombant sur moi, il s'aperçut que ma tartine avait disparu. L'étonnement et la consternation avec lesquels Joe avait arrêté le pain sur le seuil de sa bouche et me regardait étaient trop évidents pour échapper à l'observation de ma sœur.
« Qu'y a-t-il encore ?»
dit-elle en posant sa tasse sur la table. « Oh oh !» murmura Joe, en secouant la tête d'un air de sérieuse remontrance. « Mon petit Pip, mon camarade, tu te feras du mal, ça ne passera pas. Tu n'as pas pu la mâcher, mon petit Pip, mon ami. »«
Qu'est-ce qu'il y a encore, voyons ?»
répéta ma sœur avec plus d'aigreur que la première fois. « Si tu peux en faire remonter quelques parcelles, en toussant, mon petit Pip, fais-le, mon ami, » dit Joe. « Certainement, chacun mange comme il l'entend, mais encore, ta santé !» À ce moment, ma sœur furieuse avait attrapé Joe par ses deux favoris et lui cognait la tête contre le mur, pendant qu'assis dans mon coin, je les considérais d'un air vraiment piteux.
« Maintenant, peut-être vas-tu me dire ce qu'il y a, gros niais que tu es !»
dit ma sœur hors d'haleine. Joe promena sur elle un regard désespéré, prit une bouchée désespérée, puis il me regarda de nouveau. « Tu sais, mon petit Pip, » dit-il d'un ton solennel et confidentiel, comme si nous eussions été seuls, et en logeant sa dernière bouchée dans sa joue. « Tu sais que toi et moi sommes bons amis, et que je serai le dernier à faire aucun mauvais rapport contre toi. Mais faire un pareil coup... »
Il éloigna sa chaise pour regarder le plancher entre lui et moi, puis il reprit.
« Avaler un pareil morceau d'un seul coup ?»«
Il a avalé tout son pain, n'est-ce pas ?»
s'écria ma sœur.
« Tu sais, mon petit Pipe, »
reprit Joe en me regardant sans faire la moindre attention à mes yeux, et ayant toujours sous la joue sa dernière bouchée,
« que j'ai avalé aussi, moi qui te parle, et souvent encore, quand j'avais ton âge, et j'ai vu bien des avaleurs. Mais je n'ai jamais vu avaler comme toi, mon petit Pipe, et je m'étonne que tu n'en sois pas mort. C'est par une permission du bon Dieu !»
Ma sœur s'élança sur moi, me prit par les cheveux et m'adressa ces paroles terribles.
« Arrive, mauvais garnement, qu'on te soigne !»
Quelques brutes médicales avaient, à cette époque, remis en vogue l'eau de goudron comme un remède très efficace, et Mrs. Joe en avait toujours dans son armoire une certaine provision, croyant qu'elle avait d'autant plus de vertu qu'elle était plus dégoûtante. Dans de meilleurs temps, un peu de cet élixir m'avait administré comme un excellent fortifiant. Je craignis donc ce qui allait arriver, pressentant une nouvelle entrave à mes projets de sortie. Ce soir-là, l'urgence du cas demandait au moins une pinte de cette drogue. Mrs. Joe me l'introduisit dans la gorge pour mon plus grand bien, en me tenant la tête sous son bras, comme un tire-botte tient une chaussure. Joe en fut quitte pour une demi-pinte. Il dut avaler, bon gré mal gré, pendant qu'il était assis, mâchant tranquillement et méditant devant le feu, parce qu'il avait peut-être eu mal au cœur. Jugeant d'après moi, je puis dire qu'il y aurait eu mal après, s'il n'y avait eu mal avant. La conscience est une chose terrible quand elle accuse soit un homme, soit un enfant, mais quand ce secret fardeau se trouve lié à un autre fardeau, enfoui dans les jambes d'un pantalon, c'est, je puis l'avouer, une grande punition. La pensée que j'allais commettre un crime en volant Mrs. Joe, l'idée que je volerais Joe, ne me serait jamais venue, car je n'avais jamais pensé qu'il eût aucun droit sur les ustensiles du ménage. Cette pensée, jointe à la nécessité dans laquelle je me trouvais de tenir sans relâche ma main sur ma tartine, pendant que j'étais assis ou que j'allais à la cuisine chercher quelque chose ou faire quelques petites commissions, me rendait presque fou. Alors, quand le vent des marais venait ranimer et faire briller le feu de la cheminée, il me semblait entendre au dehors la voix de l'homme à la jambe ferrée, qui m'avait fait jurer le secret, me criant qu'il ne pouvait ni ne voulait jeûner jusqu'au lendemain, mais qu'il lui fallait manger tout de suite. D'autres fois, je pensais que le jeune homme, qu'il était si difficile d'empêcher de plonger ses mains dans mes entrailles, pourrait bien céder à une impatience constitutionnelle, ou se tromper d'heure et se croire des droits à mon cœur et à mon foie ce soir même, au lieu de demain. S'il est jamais arrivé à quelqu'un de sentir ses cheveux se dresser sur sa tête, ce doit être moi. Mais peut-être cela n'est-il jamais arrivé à personne. C'était la veille de Noël, et j'étais chargée de remuer avec une tige en cuivre la pâte du pudding pour le lendemain. Et cela de 7 à 8 heures, au coucou hollandais. J'essayais de m'acquitter de ce devoir sans me séparer de ma tartine. Et cela me fit penser une fois de plus à l'homme chargé de fer, et j'éprouvais alors une certaine tendance à sortir la malheureuse tartine de mon pantalon, mais la chose était bien difficile. Heureusement, je parvins à me glisser jusqu'à ma petite chambre où je déposais cette partie de ma conscience. Écoute, dis-je quand j'eus fini avec le pudding, et que je revins prendre encore un peu de chaleur au coin de la cheminée, avant qu'on ne m'envoyât coucher. Pourquoi tire-t-on ces grands coups de canon, Joe ?
Ah ! Dit Joe, encore un forçat d'évader !
Qu'est-ce que ça veut dire, Joe ? Mrs. Joe, qui se chargeait toujours de donner des explications, répondit avec rigueur.
Échapper, échapper !
Administrant ainsi la définition comme elle administrait l'eau de goudron. Tandis que Mrs. Joe avait la tête penchée sur son ouvrage d'aiguille, je tâchais par mes mouvements muets de mes lèvres de faire entendre à Joe cette question. Qu'est-ce qu'un forçat ? Joe me fit une réponse grandement élaborée, à en juger les contorsions de sa bouche, mais dont je ne pus former qu'un seul mot.
Pipe ! Un forçat s'est évadé hier soir après le coup du canon du coucher du soleil, reprit Joe à voix haute. On a tiré le canon pour en avertir, et maintenant on tire sans doute encore pour un autre.
Qu'est-ce qui tire ? Demandai-je.
« Qu'est-ce que c'est qu'un garçon comme ça ?» fit ma sœur en fronçant le sourcil par-dessus son ouvrage. « Quel questionneur éternel tu fais ! Ne fais pas de questions, et on ne te dira pas de mensonges !»
Je pensais que ce n'était pas très poli pour elle-même de me laisser entendre qu'elle me dirait des mensonges si je lui faisais des questions. Mais elle n'était jamais polie avec moi, excepté quand il y avait du monde.
À ce moment, Joe vint augmenter ma curiosité au plus bas degré en prenant beaucoup de peine pour ouvrir la bouche toute grande et lui faire prendre la forme d'un mot qui, au moment de ses lèvres, me parut être « boudé ». Je regardai naturellement Mrs. Joe et dis « elle ?» Mais Joe ne parut rien entendre du tout. Elle répéta le mouvement avec plus d'énergie encore, je ne compris pas davantage. « Mistress Joe, dis-je comme dernière ressource, je voudrais bien savoir, si cela ne te fait rien, où l'on tient le canon ?»«
Que Dieu bénisse cet enfant !»
s'écria ma sœur d'un ton qui faisait croire qu'elle pensait tout le contraire de ce qu'elle disait. « Au panton !»«
Oh !»
dis-je en levant les yeux sur Joe. « Au panton !» Joe me lança un regard de reproche qui disait « Je te l'avais bien dit. » Et s'il te plaît, qu'est-ce que c'est les pantons ? Repris-je.
Voyez-vous ?
S'écria ma sœur en dirigeant sur moi son aiguille et en secouant la tête de mon côté.
Répondez-lui une fois, il vous fera de suite une douzaine de questions. Les pantons sont des vaisseaux qui servent de prison et qu'on trouve en traversant tout droit les marais.
Je me demande qui on peut mettre dans ces prisons et pourquoi on y met quelqu'un ? Dis-je d'une manière générale et avec un désespoir calme. C'en était trop pour Mrs. Joe qui se leva immédiatement.
« Je vais te le dire, méchant vaurien, » fit-elle. « Je ne t'ai pas élevée pour que tu fasses mourir personne à petit feu. Je serais à blâmer et non à louer si je l'avais fait. On met sur les pontons ceux qui ont tué, volé, fait des faux et toutes sortes de mauvaises actions. Et ces gens-là ont tous commencé comme toi, pas faire des questions. Maintenant, va te coucher et dépêchons. »
On ne me donnait jamais de chandelle pour m'aller me coucher. Et en gagnant cette fois ma chambre dans l'obscurité, ma tête tintait, car Mrs. Joe avait tambouriné avec son dé sur mon crâne en disant ces derniers mots, et je sentais avec épouvante que les pantons étaient faits pour moi. J'étais sur le chemin, c'était évident. J'avais commencé à faire des questions, et j'étais sur le point de voler Mrs. Joe. Depuis cette époque, bien reculée maintenant, j'ai souvent pensé combien peu de gens savent à quel point on peut compter sur la discrétion des enfants frappés de terreur. Cependant, rien n'est plus déraisonnable que la terreur. J'éprouvais une terreur mortelle en pensant au jeune homme qui en voulait absolument à mon cœur et à mes entrailles. J'éprouvais une terreur mortelle de moi-même, depuis qu'on m'avait arraché ce terrible serment. Je n'avais aucun espoir d'être délivrée de cette terreur par ma toute-puissante sœur, qui me rebutait à chaque tentative que je faisais. Et je suis effrayée rien qu'en pensant à ce qu'un ordre quelconque aurait pu m'amener à faire sous l'influence de cette terreur. Si je dormis un peu cette nuit-là, ce fut pour me sentir entraînée vers les pontons par le courant de la rivière. En passant près de la potence, je vis un fantôme de pirate qui me criait dans un porte-voix que je ferais mieux d'aborder et d'être pendu tout de suite que d'attendre. J'aurais eu peur de dormir, quand même j'en aurais eu l'envie, car je savais que c'était à la première aube que je devais piller le garde-manger. Il ne fallait pas songer à agir la nuit, car je n'avais aucun moyen de me procurer de la lumière, si ce n'est en battant le briquet ou une pierre à fusil avec un morceau de fer, ce qui aurait produit un bruit semblable à celui du pirate agitant ses chaînes. Dès que le grand rideau noir qui recouvrait ma petite fenêtre eut pris une légère teinte grise, je descendis. Chacun de mes pas, sur le plancher, produisait un craquement qui me semblait crier « Au voleur, réveillez-vous ! Mistress Joe, réveillez-vous !» Arrivé au garde-manger, qui, vu la saison, était plus abondamment garni que de coutume, j'eus un moment de frayeur indescriptible à la vue d'un lièvre pendu par les pattes. Il me sembla même qu'il fixait sur moi un œil beaucoup trop vif pour sa situation. Je n'avais pas le temps de rien vérifier, ni de choisir. En un mot, je n'avais le temps de rien faire. Je pris du pain, du fromage, une assiette de hachis, que je nouai dans mon mouchoir avec la fameuse tartine de la veille. Un peu d'eau-de-vie dans une bouteille de grès, que je transvasais dans une bouteille de verre que j'avais secrètement emportée dans ma chambre pour composer ce liquide enivrant appelé jus de réglisse, remplissant la bouteille de grès avec de l'eau que je trouvais dans une cruche dans le buffet de la cuisine, un os auquel il ne restait que fort peu de viande et un magnifique pâté de porc. J'allais partir sans ce splendide morceau quand j'eus l'idée de monter sur une planche pour voir ce que pouvait contenir ce plat de terre si soigneusement relégué dans le coin le plus obscur de l'armoire. Je m'en emparais avec l'espoir qu'il n'était pas destiné à être mangé de sitôt et qu'on ne s'apercevrait pas de sa disparition de quelque temps au moins. Une porte de la cuisine donnait accès dans la forge. Je tirai le verrou, j'ouvris cette porte, et je pris une lime parmi les outils de Joe. Puis, je remis toutes les fermetures dans l'état où je les avais trouvées. J'ouvris la porte par laquelle j'étais rentrée le soir précédent. Je m'élançai dans la rue et pris ma course vers les marais brumeux.